Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Premier voyage autour du monde sur l'escadre de Magellan par le chevalier Antonio Pigafetta.
Antonio Pigafetta, marin et chroniqueur italien du XVIe siècle, participe au premier voyage autour du monde sous les ordres de Magellan. Son récit nous plonge dans une aventure extraordinaire, riche de péripéties et de découvertes. En ce mois d'octobre 1520, Magellan est convaincu d'être sur la bonne route. Mais tout l'équipage commence à douter. En continuant notre route vers le sud, le 21 du mois d'octobre, étant par le 52e degré de latitude méridionale, nous trouvâmes un détroit, que nous appelâmes le détroit des 11 000 vierges, parce que ce jour-là leur était consacré. Ce détroit est environné de montagnes très élevées et chargées de neige, et il est aussi très profond, de sorte que nous ne pouvions y jeter l'ancre que fort près de terre, par 25 à 30 brasses d'eau. Tout l'équipage était si persuadé que ce détroit n'avait point d'issue à l'ouest, qu'on ne se serait pas avisé même de la chercher sans les grandes connaissances du capitaine général. Cet homme, aussi habile que courageux, savait qu'il fallait passer par un détroit fort caché, mais qu'il avait vu représenté sur une carte par Martin de Bohême, très excellent cosmographe, que le roi de Portugal gardait dans sa trésorerie. Aussitôt que nous entrâmes dans cette eau que l'on croyait n'être qu'une baie, le capitaine envoya deux vaisseaux, le Saint-Antoine et la Conception, pour examiner où elle finissait, où aboutissait. Tandis que nous, avec la Trinité et la Victoire, les attendîmes à l'entrée. À la nuit, il survint une terrible bourrasque qui dura 36 heures et nous contraignit d'abandonner les ancres et de nous laisser entraîner dans la baie au gré des flots et du vent. Les deux autres vaisseaux, qui furent aussi agités que nous, ne purent parvenir à doubler un cap pour nous rejoindre. De façon qu'en s'abandonnant au vent qui les portait toujours vers le fond de ce qu'ils supposaient être une baie, ils s'attendaient à y échouer d'un moment à l'autre. Mais à l'instant qu'ils se croyaient perdus, ils virent une petite ouverture qu'ils prirent pour une anse de la baie où ils s'enfoncèrent. Et voyant que ce canal n'était pas fermé, ils continuèrent à le parcourir et se trouvèrent dans une autre baie dans laquelle ils poursuivirent leur route jusqu'à ce qu'ils se trouvèrent dans un autre détroit, d'où ils passèrent dans une autre baie encore plus grande que les précédentes. Alors, au lieu d'aller jusqu'au bout, ils jugèrent à propos de revenir rendre compte au capitaine général de ce qu'ils avaient vu. Deux jours s'étaient passés sans que nous vissions reparaître les deux vaisseaux envoyés à la recherche du fond de la baie, de manière que nous les crûmes submergés par la tempête que nous venions d'essuyer. Mais, pendant que nous étions dans cette incertitude sur leur sort, nous les vîmes, cinglant à pleine voix les pavillons flottants, revenir vers nous. Et lorsqu'ils furent plus près, ils tirèrent plusieurs coups de bombarde en poussant des cris de joie. Nous en fîmes autant. Et quand nous eûmes appris d'eux qu'ils avaient vu la continuation de la baie, ou, pour mieux dire, du détroit, nous nous joignîmes à eux pour continuer notre route s'il était possible. Quand nous fûmes entrés dans la troisième baie dont je viens de parler, nous vîmes deux débouchés ou canaux, l'un au sud-est et l'autre au sud-ouest. Le capitaine général envoya les deux vaisseaux, le Saint-Antoine et la Conception, au sud-est, pour reconnaître si ce canal aboutissait à une mer ouverte. Le premier partit aussitôt et fit force de voile sans vouloir attendre le second, qu'il voulait laisser en arrière. Parce que le pilote avait l'intention de profiter de l'obscurité de la nuit pour rebrousser chemin et s'en retourner en Espagne par la même route que nous venions de faire. Ce pilote était Étienne Gomez, qui haïssait Magellan, par la seule raison que, lorsque celui-ci vint en Espagne faire à l'empereur la proposition d'aller aux îles Moluques par l'ouest, Gomez avait demandé et était sur le point d'obtenir des caravelles pour une expédition dont il aurait été le commandant. Cette expédition avait pour but de faire de nouvelles découvertes. Mais l'arrivée de Magellan fit qu'on lui refusa sa demande et qu'il ne put obtenir qu'une place subalterne de pilote. Ce qui l'irritait néanmoins le plus, c'était de se trouver sous les ordres d'un Portugais. Pendant la nuit, il se concerta avec les autres Espagnols de l'équipage. Ils mirent au fer et blessèrent même le capitaine du vaisseau, Alvaro de Mesquita, cousin germain du capitaine général, et le conduisirent ainsi en Espagne. Le vaisseau La Conception, qui ne pouvait suivre de près le Saint-Antoine, ne fit que croiser dans le canal pour attendre son retour. Mais ce fut en vain. Nous étions entrés avec les deux autres vaisseaux dans l'autre canal qui nous restait au sud-ouest. Et poursuivant notre navigation, nous parvînmes à une rivière que nous appelâmes la rivière des Sardines à cause de l'immense quantité de ce poisson que nous y vîmes. Nous y mouillâmes pour attendre les deux autres vaisseaux et y passâmes 4 jours. Mais pendant ce temps, on expédia une chaloupe bien équipée pour aller reconnaître le cap de ce canal, qui devait aboutir à une autre mer. Les matelots de cette embarcation revinrent le 3e jour et nous annoncèrent d'avoir vu le cap où finissait le détroit et une grande mer, c'est-à-dire l'océan. Nous en pleurâmes tous de joie. Ce cap fut appelé « Il Capo Deseado », cap désiré, parce qu'en effet, nous désirions depuis longtemps de le voir. Au cas où nous n'eussions pas découvert ce détroit pour passer d'une mer à une autre, le capitaine général avait déterminé de continuer sa route au sud, jusque par le 75e degré de latitude méridionale, où pendant l'été, il n'y a point de nuit, ou du moins très peu, comme il n'y a point de jour en hiver. Pendant que nous étions dans le détroit, nous n'avions que 3 heures de nuit, et c'était au mois d'octobre. La terre de ce détroit, qui à gauche tourne au sud-est, est basse. Nous lui donnâmes le nom de détroit des Patagons. À chaque demi-lieue, on y trouve un port sûr, de l'eau excellente, du bois de cèdre, des sardines, une grande abondance de coquillages. Il y avait aussi des herbes, dont quelques-unes étaient amères, mais d'autres étaient bonnes à manger, surtout une espèce de céleri doux qui croît autour des fontaines, dont nous nous nourrîmes faute de meilleurs aliments. Enfin, je crois qu'il n'y a pas au monde de meilleur détroit que celui-ci.
Extrait du livre « Premier voyage autour du monde sur l'escadre de Magellan » par le chevalier Antonio Pigafetta pendant les années 1519 à 1522. Traduit par Christoph Gottlieb von Mür, édité en 1800 et 1801 par H.J. Janssen, imprimeur libraire à Paris. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la Financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast.